maintenant. Vous pouvez déjà ouvrir avec moi l'épître de Paul aux Colossiens. Et on va reprendre le chapitre 3. C'est là que nous nous étions arrêtés, bien aimés, la semaine dernière. Il y a, en réalité, dans ce passage, j'ai préféré interrompre la méditation la semaine dernière. Je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus d'éléments que je ne pensais. Et que si je poussais trop la semaine dernière, je risquais de bâcler des points très importants. Et du coup, le Seigneur a travaillé mon cœur cette semaine pour développer un petit peu cela. Bien sûr, notre thématique, une église selon le cœur de Dieu. Le sous-point dans lequel nous sommes actuellement, c'est les uns, les autres, toute la question de nos relations, puisque le Seigneur va nous montrer comment, ce qu'il attend de nous pour que l'église soit forte, vivante, belle, bénie en bénédiction, et qu'elle reste vraiment l'expression de son cœur, et que chacun soit pleinement béni par l'Assemblée, dans l'Assemblée, et une bénédiction pour ses frères. On avait vu ce passage, ne mentez pas les uns aux autres. On reprend ce texte et après on va faire une lecture complémentaire. Donc Colossiens, chapitre 3, verset 1er, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort, spirituellement parlant, à votre ancienne vie. Et votre vie, nouvelle, est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels, effectivement, vous marchiez, vous aussi, autrefois, lorsque vous étiez dans vos péchés. Mais maintenant, sous-entendu maintenant que vous avez une vie nouvelle, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes ou, selon les versions, les propos équivoques, on va en parler, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et que vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, ça c'est le deuxième allélon du texte, mais ce sera l'objet d'un message à part. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement allélon les uns les autres, ça on l'avait déjà vu, je n'y reviendrai pas. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, l'agapé, la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Amen. Nous avons considéré la semaine dernière dans ce « Ne mentez pas les uns aux autres » qu'il ne peut pas y avoir, évidemment, Paul insiste dans le contexte sur nos responsabilités individuelles et collectives. Nos responsabilités individuelles pour que notre vie nouvelle s'épanouisse. Dans sa grâce, le Seigneur nous a donné une vie nouvelle. Ça, c'est son miracle. Il a fait la part d'impossible. Et Paul nous dit, mais maintenant, mais c'est à vous de faire votre part de possible pour que votre vie s'épanouisse, qu'elle soit de plus en plus forte. C'est à vous de vous dépouiller du vieil homme. C'est à vous d'enlever de vos cœurs et d'enlever de vos relations ce qui va faire obstacle à la bénédiction de Christ en vous. C'est à vous de renoncer. Dans renoncer, il y a non. C'est simple, il faut choisir, il faut se positionner. C'est un terrain de justice. Le Seigneur m'attend sur le terrain de la vérité. L'ennemi de mon âme, bien qu'enfant de Dieu, m'attend sur son terrain à lui de dissimulation, d'occultation, de secret, de cachotterie, de demi-vérité, de pieux mensonges. C'est juste une histoire de positionnement. Et l'apôtre est clair, c'est à vous de renoncer, de dire non et de vous positionner et de dire oui à. Et ça, aucun ange et le Seigneur lui-même ne le fera jamais à ma place. mensonge ou vérité, c'est l'un ou l'autre, parce qu'avec Dieu, c'est sûr que dans ce monde, on a inventé des choses, on aime bien les demi-vérités, on aime bien les pieux mensonges, on aime bien essayer de ménager la chèvre et le chou, mais l'apôtre Paul est clair, quel point commun y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Hein, on sait qu'il n'y en a aucun. Et la vérité et le mensonge sont deux mondes, deux natures, puisque la vérité avec un V majuscule, c'est la nature du Dieu trinitaire. Le mensonge, c'est la nature de notre ennemi. Jésus dit bien, quand il parle, il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est sa nature. Et la Bible est claire, le Seigneur nous montre que tout ce qui est tordu, arrangé, dissimulé, c'est pas la vérité. Si c'est pas la vérité, nécessairement aux yeux de Dieu, c'est du mensonge. Et c'est ce que l'ennemi a fait. Le jour où il est venu tenter Ève, vérité arrangée. Il n'a pas totalement menti, mais il a menti parce que de toute façon, ce qu'il a dit a emmené Ève et Adam à la chute. Et c'est comme ça qu'il a essayé aussi de tenter Jésus. Donc, Jésus est clair, Paul est clair, Dieu est 100% vérité. Et heureusement, parce que comme je vous l'ai dit, s'il y avait un seul point dans la parole, mais on ne sait pas lequel, hein, mais un seul point dans la parole, le Seigneur nous a menti. Enfin, il ne nous a pas dit que. Il y a un point, mais on ne vous dit pas lequel. Ça va sérieusement fausser la confiance. Une vérité qui n'est pas vérité à 100%, ça fausse la confiance, ça fausse les relations. Moi, si vous voulez, je vous fais un super gâteau. Et dans le gâteau, il y a tous les ingrédients, des œufs, de la farine, du mascarpone, du Nutella, des gâteaux, du chocolat. Je vous mets tout ce que vous voulez et je vous fais un super beau gâteau. Puis je vous dis, je vous le donne, je vous l'offre. Puis je vous dis, par contre, je suis désolé, hein, il y a un truc, il y a un élément qui est empoisonné. Mais je ne sais pas lequel. Mais en même temps, ce n'est pas grave. Il n'y en a qu'un élément empoisonné sur l'ensemble des ingrédients du gâteau. Ce n'est pas grave. Vous le mangez ou vous ne le mangez pas ? Ben non, parce que quand ce n'est pas la vérité, quand on n'est pas sûr, quand ce n'est pas sain, quand ce n'est pas net, quand ce n'est pas clair, non, je suis désolé, je ne touche pas. Heureusement que Dieu est 100% vérité. C'est ce qui fait ma paix, c'est ce qui fait ma sécurité, c'est ce qui fait la qualité de ma relation avec lui et que je peux m'appuyer sur lui et avoir confiance. Et si en face de moi, dans l'église, ben, vous ne pouvez pas avoir confiance dans le pasteur parce que vous ne savez pas s'il va peut-être vous dire un truc, mais en même temps, il a quand même... vous savez, il y a des gens, ils veulent avancer, mais ils n'avancent pas comme ça. Malheureusement, ils avancent comme ça. Et je ne connais qu'un seul animal, moi, sur cette terre qui avance comme ça. Et vous avez compris, mais oui, c'est le serpent. Alors, quand on commence à jouer avec la vérité et le mensonge, en réalité, on l'a vu, on est en train de redonner un avantage à l'ennemi de nos âmes et on affaiblit la puissance de Dieu dans nos vies et dans nos relations. Je termine ce petit résumé qui est très important, puis après on va aller plus loin parce que l'apôtre Paul nous donne des pistes pour réussir, pour être efficace. Tout ça c'est le fond, mais ensuite il va nous montrer la forme, il va nous montrer le comment. Mais sur le fond, comprenez bien qu'il ne s'agit pas dans la pensée de Dieu, il ne s'agit pas seulement de vérité dans nos paroles, dans nos confessions. Il s'agit aussi de vérité dans les comportements. Et c'est ce que la Bible appelle hypocrisie, c'est-à-dire le fait de jouer un rôle. Parce que par moment, nous ne mentons pas avec des mots, mais notre vieille nature est capable de mentir par des comportements. Et souvenez-vous, Galates chapitre 2, c'est ce que même un homme comme l'apôtre Pierre, Céphas, c'était pas n'importe qui, mais le jour où Céphas a eu peur de ce que des Juifs pourraient penser quand ils mangeaient avec des païens, eh bien, Céphas, il était avec les païens, il mangeait, il était très, très bien. Puis quand il a entendu que Jacques et certains juifs allaient arriver, il a fait comme si de rien n'était et il s'est tenu à l'écart. Et puis, l'apôtre Paul l'a vu et il lui a dit, Céphas, je vais te résister en face parce que ce que tu fais est de l'hypocrisie. Non seulement tu ne marches pas droit, je cite, tu ne marches pas droit, tu ne te comportes pas selon la vérité de l'évangile, ton comportement dit autre chose que ce que tu penses, ça s'appelle du mensonge, tu ne marches pas selon la vérité de l'évangile, mais en plus tu as entraîné Barnabas et les juifs qui étaient avec toi et tu as entraîné tout le monde dans ton attitude hypocrite. Et le Seigneur nous montre mais que nous pouvons malheureusement mentir par des attitudes. Et ça aussi, il attend que nous soyons simplement, par la grâce de Dieu, ce que nous sommes, avec nos besoins de progrès, en toute honnêteté, que nous soyons vrais, que nous soyons honnêtes, que nous soyons transparents. Puis, excusez-moi, puis si à un moment on me juge, eh bien, jugez-moi. Puis si quelqu'un me juge, j'ai de la peine pour lui, parce que du coup, c'est pas avec moi qu'il a un problème si on me juge. C'est avec Dieu. Et on a vu enfin que la vérité est un terrain de bénédiction, psaume 15, je n'y reviens pas plus. On fait notre petite lecture complémentaire et on va aller plus loin. Vous allez voir la profondeur de ce que l'apôtre Paul a dit. On prend cette fois-ci, s'il vous plaît, ce que je l'ai marqué, oui, je l'avais marqué sur la page d'avant, mais je vous le redis, Éphésiens chapitre 4, là on va prendre juste un verset, mais qui est dans la ligne directe de la lecture précédente, Éphésiens chapitre 4, verset 25, voilà, c'est ça, verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez, dans renoncer, il y a non, renoncez au mensonge, la logique, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, allélon, ce qui fait que là, l'apôtre Paul est encore en train d'accentuer sur le fait que c'est dans l'Église. Bien sûr, parler à son prochain, la vérité est un principe général. Je dis la vérité, je suis vrai et honnête avec tous. Mais là, le contexte, c'est nous sommes membres les uns les autres. Il parle du prochain dans le contexte du corps, puisque nous sommes membres les uns des autres. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Et là, petit problème. Parce que très souvent, on s'est dit, bon, ok, on ne va pas mentir. Mais comme on a eu régulièrement des échecs avec la vérité, comme on a eu parfois des retours de manivelle, comme parfois on a peur, peut-être des réactions, ou ceci ou cela, du coup, on est tombé dans un bon vieux proverbe, qui n'est pas dans la Bible, mais dans le monde, « Oh, vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire. » Mais ça, ce n'est pas dans la Bible. Le Seigneur, il me dit, parle selon la vérité. Et c'est simplement parce que quand on a eu des déconvenues, et vous allez comprendre pourquoi on a des déconvenues et comment on peut régler les choses, qu'on a préféré à un moment dire, oh là là, vous savez, moi, je préfère rien dire. Mais, vous savez, quand on dit rien et qu'on n'en pense pas moins, on est quand même dans une position très, très, très délicate. Alors comment on peut gérer tout ça et comment est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. L'apôtre Paul nous met quelque chose vraiment de clair sous les yeux. Enfin, pour moi, ça me paraît clair. La vérité, oui, mais comment? Alors, première chose extrêmement importante, c'est pour ça qu'on a lu l'ensemble des 15 versets aux Colossiens. Pour garder l'équilibre, pour que la vérité puisse passer, on va aller plus loin, mais déjà, premier principe, il ne faut jamais oublier la toile de fond. L'apôtre Paul dit bien l'amour, verset 14, qui est le lien de la perfection. La vérité et l'amour, bien-aimés, sont deux rails qui sont indissociables. Jamais la vérité sans l'amour, jamais l'amour sans la vérité. C'est comme deux rails. S'il n'y en a qu'un, d'une façon ou d'une autre, ça va aller dans le mur. Parce que Dieu m'aime, il me dit la vérité. Et merci Seigneur de ce qu'il m'a dit la vérité, parce que s'il ne m'avait pas dit la vérité, comment est-ce que j'aurais pu avoir un éclairage salutaire? Comment est-ce que je serais parvenu au salut? S'il ne m'avait pas dit la vérité, s'il n'y avait pas eu d'amour, il ne m'aurait pas dit la vérité. Il m'a dit la vérité parce qu'il m'aimait, et même encore maintenant, pour ma croissance. L'amour de Dieu, même étant son enfant, dans sa parole, me dit la vérité. Et il me dit, Stéphane, c'est pas que je t'aime pas, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et ce point dans ta vie, il doit changer, tu dois progresser. Il faut Et autant pour mon salut que pour ma croissance, heureusement que Dieu, dans son amour, me dit la vérité. Mais qu'ensuite, la vérité est dite avec amour. Parce que des vérités qui sont dites sans amour, eh, vous avez des gens, ils sont éclatés sur le carreau, et puis finalement, ben, ça n'a rien produit, à part faire un champ de ruines autour de nous. L'amour dit la vérité. Frères et sœurs, quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité, il peut vous faire les plus grands discours, il peut vous inviter à sa table, il peut vous dire « Ah, mais tu sais, on est trop bien avec toi, je t'apprécie, blabla. » Il peut vous dire ce qu'il veut. Si quelqu'un ne vous dit pas la vérité, je suis désolé, il ne vous aime pas. Il a des sentiments pour vous. C'est humain, c'est charnel, c'est du sentimentalisme. L'amour dit la vérité. Et la vérité va être dite, bien sûr, dans l'amour, avec 5 porteurs, on va le voir, avec 5 porteurs qui vont garantir que la vérité soit digeste, qu'elle soit entendable, salutaire, constructive et pas destructrice. Alors, bien sûr, pour que la vérité puisse passer, c'est pour ça qu'on a lu jusqu'au verset 15, il faut absolument la vérité, oui, mais la vérité dans l'amour, et surtout pas au détriment du verset 15, oui, la vérité, mais afin que, au bout de tout cela, la paix règne dans vos cœurs. Donc, on a l'amour qui est le lien de la perfection. Ça, c'est le moteur, la motivation. On a les attributs qui en découlent. On va les étudier ensemble tout de suite, dans 5 minutes. Et ensuite, la finalité, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Parce que si lorsqu'il y a eu de la vérité, derrière, c'est la confusion et la guerre, on s'est loupé. L'amour et la vérité, deux rails inséparables. La vérité... L'amour dit la vérité est dite dans l'amour, Dieu m'aime, il me dit la vérité, et heureusement, mon épouse m'aime, et elle me dit la vérité, je l'aime, et on se parle avec les porteurs de vérité qui vont garantir que. Alors comment on fait ça? Parce que finalement on peut se dire, ah oui c'est bien, c'est chouette, mais pour l'instant ça me paraît extrêmement compliqué à mettre en œuvre, et pour l'instant ça me paraît beaucoup plus simple de... Je ne dis rien, mais j'en pense pas moins. Comment on fait ça? L'apôtre Paul nous montre ici que la vérité qui doit être transmise est transmise dans l'amour. Et que de l'amour découlent 5 porteurs. Il y a 5 porteurs de vérité à qui vous ne devez jamais confier la vérité. Si vous confiez la vérité à ces 5 porteurs, vous êtes sûr qu'il va y avoir de la casse. Et si vous confiez la vérité aux 5 bons porteurs de vérité, mais la vérité, ça va aller, ça va passer. Je m'explique. Enfin, plutôt Paul nous explique. Tout d'abord, il faut déjà, avant de trouver la bonne voie, il faut toujours renoncer à la mauvaise. Il faut toujours comprendre, avant de comprendre ce qui marche, il faut toujours comprendre ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Il faut comprendre où on s'est planté. Et l'apôtre Paul, il nous dit, avant de considérer les 5 bons porteurs de vérité qui résultent de l'amour et qui vont garantir un résultat paisible, constructif et salutaire, eh bien, il faut déjà que tu comprennes où sont les mauvais porteurs qui se dissimulent dans ton cœur, des mauvais porteurs à qui tu as confié ta vérité, et c'est à cause d'eux que ça n'a pas marché. Et voilà ce qu'il nous montre. Au verset 5, d'abord l'apôtre Paul, au verset 5, il va montrer 5, il met en évidence 5 mots, impureté, impudicité, etc., qui sont en réalité des mots relatifs à la mauvaise conduite. Et ensuite, verset 8, il cite 5 sentiments, 5 émotions, 5 sentiments, qui sont des intentions, des états intérieurs, des sentiments, des émotions, qui vont empêcher la vérité de parler, qui vont empêcher la vérité de passer. Si vous prenez la vérité, même si vous avez raison à 300%, et vous posez cette vérité sur ces 5 porteurs et vous envoyez tout le monde à destination, ça ne marchera pas. Et l'apôtre Paul me dit, parce qu'il est question de mensonge et de vérité dans ce texte, l'apôtre Paul me dit, tu vas renoncer avant d'envisager de parler. Assure-toi bien, même si tu as raison, assure-toi bien que les porteurs de ta vérité, de la vérité, ne soient pas colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole équivoque. J'invente rien, vous l'avez lu comme moi, c'était sous nos yeux. Quand l'apôtre Paul parle de la colère, il parle de cette orgue. Orgue, dans l'original, c'est cette agitation intérieure, c'est une forme d'indignation. Vous savez, c'est quand vraiment on est indigné et puis ça nous met dans tous nos états, on est en colère, on est offusqué, il y a une émotion, il y a une espèce de tempête qui se lève dans l'âme, c'est la violence intérieure, l'agitation, oui je vous l'ai mis parfait, l'indignation, c'est une violence intérieure. L'apôtre Paul me dit, si tu crois qu'en disant la vérité dans ta colère, l'autre, non, ça ne marchera pas, jamais de la vie. Puis, il parle de l'animosité. L'animosité, thumos dans l'original, c'est assez proche de la colère dans le sentiment, dans ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais là, c'est beaucoup plus... vous savez, on dit que c'est les gens qui ont le sang chaud. Les gens qui démarrent au quart de tour, quoi. Ils sont calmes. Puis vous voyez rien, ça monte pas. Ils sont calmes. Ils tiennent. En réalité, c'est charnel. Ils se continuent. Et d'un seul coup, paf, ça explose. Il y a une chaleur bouillante. Et ce qui fait, il y a une rage. Et là, l'expression, vous connaissez. Ah ben là, je l'avais jamais vu. Mais alors là, il est sorti de ses gonds. Je pensais pas qu'il était capable de... Un jour, dans une église, pas ici, il y a un frère qui vient me voir et qui me dit, vous savez, frère, avec moi, il ne faudra pas vous inquiéter, mais vous savez, moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Et ça y va. Et puis il me dit, mais vous inquiétez pas, hein, parce que quand j'explose, oh, je peux vous garantir, j'explose qu'une seule fois. J'ai dit, frère, vous avez vu le principe d'une bombe. J'ai compris qu'une bombe, quand elle explose qu'une seule fois. Le mieux, ce serait qu'elle n'explose pas, parce que vous avez... Encore heureux que ça explose qu'une seule fois. Vous avez vu l'explosion, ce qu'elle fait quand vous avez explosé une fois ? La bombe, elle explose une fois. Ah, ça, c'est la palisse. Hein. Alors, une bombe n'est jamais faite pour exploser deux fois. Hein. C'est la palisse. Ah, moi, j'explose qu'une fois. Oui, mais vous vous rendez compte que... Le nombre de cadavres qu'il y a autour de vous, frère, quand vous avez... Ah ben moi j'explose qu'une fois, puis après on n'en parle plus, tout va bien. Ah ben non, tout va pas bien, parce que vous, quand vous avez explosé, moi j'ai 10 ans de reconstruction derrière. Et puis il faut que j'en prenne les gens en entretien dans le bureau pour réparer les cases de votre explosion sainte et unique. Non, il faut arrêter direct. J'explose, c'est ça, l'animosité, thumos. Et puis, à quoi pense l'apôtre Paul quand il dit méchanceté au sujet de ces mauvais porteurs ? En réalité, ici, il parle plus précisément kakia, c'est pas katia, c'est kakia. Kakia, c'est de la malice, c'est-à-dire il y a une intention malveillante. Le mauvais vouloir, c'est l'intention malveillante, c'est-à-dire que je sais que je dis la vérité, que c'est incontestable, mais cette vérité, je vais la dire pour que l'autre... Je vais lui clouer le bec, c'est avec une intention malveillante, c'est dans le but de faire mal. C'est dans le but de casser. Donc je vais ressortir à l'autre quelque chose qui est totalement vrai, mais et l'apôtre Paul me dit, même si tu as raison, va pas t'imaginer qu'une vérité que tu as dit dans l'intention de faire mal, parce que tu ne l'as pas dite dans l'amour, c'était pas dans l'intention de construire, c'était dans le but de te venger et de balancer quelque chose sur l'autre. Dans ce contexte, ça passera pas. Donc, règle ça d'abord devant Dieu, avant de parler. Et puis, il y a deux mots ici, pas forcément très bien traduits, mais c'est quand même vrai. Le mot calomnie, en réalité, ici, ce n'est pas mensonge. Le mot ici, c'est blasphémia. Et blasphémia, littéralement, ça signifie des propos qui sont insultants, qui sont injurieux, des propos outrageants. C'est marrant comme il y a des fois certaines personnes, quand ça commence à chauffer, malheureusement même dans le couple, il y a des mots qui sortent. Et à ce moment-là, on dit « Oh, je ne pensais pas que tu étais capable de parler comme ça, toi. » Il dit « Non, tu comprends, faut comprendre, je ne suis pas comme ça, je ne parle pas comme ça, mais c'est parce qu'en réalité, tu m'as poussé à bout, et comme tu m'as poussé à bout, y a des mots qui sont sortis et je ne les pensais pas. » c'est toujours Jésus qui a raison. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que votre bouche parle. Et ce qui est sorti de ta bouche, ça ne peut pas venir d'autre part que de ton cœur, mon frère, ma sœur. Et si c'est sorti de ta bouche, ça vient de ton cœur, ça a révélé qu'en toi, il y a des choses et ça doit disparaître. Et puis très proche, derrière, il y a ces paroles équivoques. Et derrière paroles équivoques, vous avez peut-être paroles déshonnêtes, selon vos versions. C'est déjà un peu mieux quand on a paroles équivoques. Dans les traductions, ce « esloria » qui signifie en réalité, là, c'est vraiment les grossièretés. Il y a des propos qui sont insultants, injuriants, c'est de l'outrage. Et derrière, le cran au-dessus, c'est vraiment le propos grossier. Et si vous faites bien attention, quand on est dans des états de orgue, thumos, kakia, colère, animosité, méchanceté, quand on est dans des états comme ça, très souvent que c'est là qu'ensuite les deux derniers interviennent et commencent à faire sortir des choses qui vont vraiment blesser la personne en face. Et ah, je ne pensais pas que tu étais capable de dire des choses comme ça. Je peux avoir raison à 100%, même à 300% si vous voulez. L'apôtre Paul me dit, si tu confies la vérité à ces porteurs-là, tu es sûr que ta vérité n'arrivera jamais à destination. Ça ne marchera pas, c'est voué à l'échec. Et ensuite, nous on dit, oh, il est dur, hein, elle est dure, hein, elle ne comprend rien. Hein. Il ne comprend rien. Pourtant, je lui dis, je lui explique. Il ne comprend rien. Et comme il ne comprend rien, alors je suis d'accord que oui, il y a certains cœurs qui sont durs. Oui, la Bible me parle de la dureté du cœur humain. Mais on connaît la dureté du cœur humain. Ok, d'accord, mais il faut bien comprendre que les mauvais porteurs de vérité compliquent sérieusement la mission. Et même si on dit vrai, malheureusement, avec ces états-là, vous connaissez l'expression, on a fait pire que mieux. On a jeté de l'huile sur le feu. Et là, pardon, je vais être méchant, mais bienveillant. Mais comme tu as besoin que ta vérité, elle passe, et comme tu as besoin qu'on t'écoute, parce que c'est normal, tu as besoin de parler, et puis c'est normal, tu as raison, il n'y a pas de problème. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Puisque l'autre en face, puisque là, ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur n'a pas, il comprend, c'est l'autre forcément. De toute façon, c'est toujours l'autre qui ne comprend rien, on est d'accord? L'autre, par principe, ne comprend rien. Et là, merci SFR, il existe des forfaits illimités pour que je puisse parler de ce que j'ai besoin. Et là, je vais commencer à décrocher le téléphone. Ouais, tu sais, je lui ai dit ça. Tu te rends compte quand même qu'il m'a répondu ça et que là, mais oui, mais t'as raison, mais évidemment t'as raison. Mais, et là, j'ai pas mis le texte, mais c'est l'apôtre Jacques, vous pourrez lire Jacques chapitre 4, chapitre 5. L'apôtre Jacques dit, ne parlez pas mal les uns les autres à l'élone. Ne parlez pas mal des uns des autres. Ne parlez pas les uns sur les autres. Même si un frère, une sœur a tort, je n'ai pas à parler de... Même si elle n'a rien compris, je n'ai pas à parler de... Je n'ai pas à parler de Patricia à Luc. Je n'ai pas à parler de Luc à Catherine, je n'ai pas à parler des uns au sujet des autres. Je n'ai pas à me plaindre, Jacques 5, Jacques 4, ne parlez pas mal les uns des autres à l'élone. Jacques 5, ne vous plaignez pas les uns des autres, ne vous plaignez pas. Chapitre 5, verset 9, à l'élone, les uns des autres. Une fois que j'ai compris que ça ne marchera jamais et que je l'enlève, parce que c'est entre moi et Dieu, ensuite, je vais pouvoir confier ma vérité à de bons porteurs. Enfin, ma vérité, la vérité, à de bons porteurs. Et ces porteurs-là, eux, ils ont une source. Ils sont mandatés par l'amour agapé. Ils sont mandatés par l'amour bienveillant qui est le lien de la perfection. Ils sont mandatés par Agapé. C'est Agapé qui les envoie. Et ici, comme par hasard, mais vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard, l'apôtre Paul en a cité 5 mauvais, et en contrepartie, il en cite 5 bons, pour qu'il y ait un équilibre parfait. Le premier, il parle de cette miséricorde dans l'original, qui peut aussi être, en réalité être traduit, être compris par compassion. C'est-à-dire que, oui, j'ai une vérité, j'ai la vérité à communiquer à quelqu'un. Mais avant de me préoccuper de dire cette vérité, de la véhiculer, est-ce que je me suis juste arrêté pour réfléchir et simplement être profondément concerné par la situation de la personne à qui je veux parler? Est-ce que je suis bien sûr que, oui, c'est vrai, elle est compliquée. Oui, c'est vrai, des fois, il est un peu... Est-ce que j'ai juste pris le temps, dans la miséricorde, dans la compassion, de réfléchir qu'il y a peut-être des souffrances dans le cœur de mon frère ou de ma sœur? Pardonne-moi, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu sais des souffrances qui ont fait que le frère ou la sœur sont peut-être un peu compliqués? Qu'est-ce que tu en sais? Et Paul est en train de me dire implicitement, tu vois, avant de balancer ta vérité, est-ce que tu ne pourrais pas cum passio, est-ce que tu ne pourrais pas souffrir avec ton frère, ta sœur, peut-être des souffrances qui font qu'aujourd'hui, parce que si tu comprenais ces souffrances, tu comprendrais son état. Et du coup, tu aurais une autre approche pour lui dire ce que tu as à lui dire. La vérité sans la compassion, pas bon. Oiktirmos, miséricorde, compassion. Avant de vouloir corriger quelque chose chez l'autre, prends à cœur cette personne, considère-la. Réfléchis à ses blessures, à ses souffrances. Réfléchis à ce que peut-être tu ne sais pas sur elle. Et puis, on en parlera dans un autre message, mais c'est là aussi au cœur de ce qu'on a lu. L'apôtre Paul dit dans le « Allélon les uns les autres, supportez-vous » au sens, non pas « tu me saoules, il faut bien que je fasse un effort », non, mais au sens de « porter par le dessous, portez-vous les uns les autres, porte ton frère, porte ta sœur ». Vous savez, quand vous avez pris le temps, de façon inconditionnelle, dans la compassion, de porter un frère, une sœur, je vous garantis que le jour ensuite où vous avez besoin de lui parler, il aura des oreilles pour vous écouter. Apprenons à porter avant d'envoyer des vérités. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de me montrer, mais le « portez-vous les uns les autres par le dessous », ça, ce sera un message à part bientôt. Et puis, il y a cette bonté, là, c'est facile, hein, cette bonté morale, cette obligeance, cette prévenance, ce souci que la vérité soit salutaire, constructive, qu'elle amène la paix, qu'elle amène une croissance, qu'elle amène un bienfait. Il y a aussi ensuite ce troisième porteur qui est l'humilité. Et je suis toujours bien aimé, je suis toujours émerveillé par l'attitude de Christ, doux et humble de cœur. L'humilité, c'est humus, le sol. Et ce qui m'a toujours interpellé, c'est que le Seigneur n'a jamais cherché et ne cherche toujours pas à nous tirer à son niveau. Trop souvent, on essaye de prendre les gens et de les tirer à soi. Jésus a quitté son ciel de gloire. Il est 100% vérité. Il avait 100% raison. Je suis pécheur, j'ai 100% tort. Il a la vérité libératrice, salutaire, éternelle à me communiquer. Mais le Seigneur ne me prend jamais de haut. Le Seigneur ne m'a pas pris de haut pour essayer de me tirer. Le Seigneur est descendu, il s'est abaissé. Et c'est pour ça que Paul dit « oiktirmos », miséricorde, compassion, qui fait qu'avec l'humilité, Jésus s'est abaissé jusqu'à nous et il ne nous a pas regardé d'au-dessus. Il est venu jusqu'à nous et il nous a regardé en face. Il nous a pris où nous étions et il nous a emmenés avec lui et il nous a fait remonter. Et dit Paul, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. quand la vérité n'est pas dite dans l'humilité, peut-être vous l'avez déjà entendu, moi je l'ai déjà dit à certains, j'ai dû entendre aussi des bien-aimés parfois me dire « Là, honnêtement, tu nous as pris de haut. » Eh oui, comment t'aurais fait, toi, Seigneur ? Ben, je le sais, tu es descendu. Tu t'es mis à mon niveau, tu as pris le temps qu'il fallait, et une fois que j'étais pleinement convaincu, tu m'as ramené, tu m'as remonté avec toi. Vous connaissez ce proverbe qui n'est pas dans la Bible ? À force de tirer sur la corde, on ne peut pas tirer les gens vers le haut. Ça ne marche pas. Jésus nous a montré l'exemple. On descend, on prend le temps et on remonte la personne en la portant. On la remonte. On ne la tire pas, on la porte vers le haut. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il y a cette douceur parce que sinon c'est un petit peu comme avec l'autre qui n'explose qu'une seule fois. La douceur, c'est ce qui va permettre justement d'éviter cet effet bulldozer. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ce qu'on dit communément. On dit, vous savez, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, ben, c'est exactement ça quand on manque de douceur. Un jour, une sœur me disait... Elle me dit, oh, tu sais Stéphane, il faut comprendre, moi je suis une personne franche. Moi tu me vois, et ben moi je suis comme ça. Et ben moi je suis franche, je suis honnête, et de toute façon je n'ai pas de filtre, et je dis la vérité. Et moi je suis franche, et s'il y a des gens qui ne supportent pas, et ben tant pis. Mais moi au moins je suis franche et je suis honnête. Pause. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la sagesse, dis-moi ce que je dois dire à cette sœur. Après, je reviens, je lui dis, tu sais, ma sœur, la vérité, l'honnêteté, c'est magnifique. À la vérité, ma sœur, est-ce que tu peux aussi ajouter la douceur et l'amour, s'il te plaît ? Oui, je vais réfléchir. Et elle a progressé. Et puis, il y a la patience. Mais oui, la patience. La patience dans différents termes, dans différents aspects. La patience, bon là j'essaye même pas de prononcer, hein, je vous laisse vous faire plaisir. Patience, effectivement, c'est bien traduit, patience, longanimité, selon vos versions. Et ce qui m'a vraiment interpellé ici dans l'original, lenteur à venger les fautes. L'apôtre Jacques dit que tout homme soit lent à parler, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Jacques chapitre 1er. Dans le livre des Proverbes, pardon, j'ai oublié la référence, dans le livre des Proverbes, il est dit « Quelqu'un qui parle avant d'avoir écouté commet un acte de folie, c'est un insensé. Celui qui parle avant d'avoir écouté commet un acte de folie. » La lenteur à venger, la lenteur à vouloir régler. En d'autres termes, ce n'est pas parce que j'ai un truc vrai à dire que je suis obligé de le dire tout de suite. Je ne suis pas pressé. Je ne vais pas faire l'hypocrite, je ne vais pas faire le faux. Mais la lenteur à parler. Parce que, tu sais, mon bien-aimé, au moment où ta femme ou ton mari rentre du travail et que toi, tu es là parce que toute la journée, tu avais un truc à dire, et tu t'es posé la question deux secondes qu'au moment où il allait arriver, avec la journée qu'il avait eue. Oui, tu sais, sûr, ce que tu vas dire, c'est vrai, ouais, ouais. Tu n'as peut-être juste pas compris que ce n'était peut-être pas le bon moment de parler et qu'il faudrait peut-être mettre ça dans la prière, être lent à parler et puis que par la grâce de Dieu vienne le bon moment pour ton époux, ton épouse, un enfant, un parent, un frère, une sœur. Sois lent. Tu ne te tairas pas, mais sois lent. La patience. Je suis patient pour pouvoir parler. C'est l'inverse de l'impulsivité, évidemment. Et puis, aussi, je termine avec ça, il y a aussi cette persévérance. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux vous dire que quand le Seigneur m'a parlé, et plus d'une fois, et ben malgré tout son amour et toute sa douceur, et ben heureusement qu'il a persévéré. Parce que bourricot que je suis, et ben j'avais pas compris du premier coup. Donc comme je sais que je n'ai pas compris du premier coup et que je vois mon Seigneur dans sa lenteur, lent à la colère, patient, riche en bonté, persévérant, qui sait, au moment, à un autre moment opportun, me redire sous d'autres formes, avec les mêmes douceurs, miséricorde, compassion, me redire la même chose, puisqu'il l'a fait pour moi. Je me dis, bah tiens, je peux peut-être faire ça pour ma femme, bah tiens, je peux peut-être faire ça pour mon frère, ou un, voilà, vous avez compris. Et si je suis patient, si je suis persévérant, la vérité s'installera dans le cœur de l'autre, peut-être pas tout de suite, mais là aussi de la persévérance, de la douceur et de la bienveillance. Alors peut-être, vous allez vous dire, c'est compliqué tout ça. Ben non. L'apôtre Paul a mis au cœur de son passage, Christ est tout et en tous. Et plus Christ est tout en toi et dans ton épouse, plus ça va être simple. Plus Christ sera tout en moi et en vous, plus ça va être simple. Plus Christ sera tout dans nos cœurs les uns les autres, plus ça va être simple. Et puis après, il y a vraiment ici quelque chose, il y a une libération, parce que là, Jésus est clair, la vérité, elle nous affranchit, elle nous libère. Le secret de tout ce passage, c'est Christ et tout et en tous. Alors oui, la vérité, se taire, dissimuler, faire des cachotteries, garder des secrets, faire comme si. Paul est clair, tout ça c'est du mensonge. Tout ça, ça va t'enfermer. Tout ça, ça va détruire tes relations. Tout ça, ça va pourrir ta vie et celle des gens qui t'entourent. Par contre, une fois que tu as enlevé de ta vie, orgé, tumos, kakia, tous ces porteurs de vérité, une fois que tu as enlevé ça de ta vie, et puis que tu commences à considérer les attributs qui sont les conséquences de l'amour de Christ, à ce moment-là, oui, l'Esprit de Dieu est avec toi. Son approbation, son onction est sur toi. Et là, tu peux aller, et là, tu peux parler, et tu verras des beaux résultats. Et l'Église, encore une fois, est fortifiée, bénie, affermie. L'Esprit de Dieu est réjoui, l'Église ressemble au cœur de Jésus, l'onction du Saint-Esprit est déversée, et puis l'Église est bénie, et en bénédiction les uns avec les autres. C'est sa garantie de force, et c'est le verset 15, c'est la garantie que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne toujours en vous et au milieu de vous. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. On se recueille quelques instants. Merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour ta parole. Personne, Seigneur, n'est vérité plus que toi. Mais personne n'est lumière, sainteté. Mais personne n'est amour comme toi, tu l'es. Merci pour ton amour. Merci de ce que ton amour nous a dit la vérité. Merci de ce que ta vérité dans ton amour ne nous a jamais cassés, ne nous a jamais détruits, mais au contraire nous a sauvés, nous a éclairés, a amené des buts salutaires, bienveillants en nous, Seigneur. Et même encore aujourd'hui, ta vérité, c'est la garantie de notre croissance. Et ta vérité dans l'amour garantit notre croissance et notre épanouissement. Seigneur, merci. Je te prie que dans ton Église, Seigneur, ce soit la miséricorde, la compassion, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, l'amour qui règne, que Christ règne dans chaque cœur, afin que la vérité puisse aussi régner et que ton Église en soit bénie, 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 au-delà de ce qu'elle peut encore penser ou imaginer, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Voilà, ce culte touche à sa fin. Comme je vous l'avais dit, forcément, c'était un petit peu plus court aujourd'hui. On va se donner, l'Assemblée Générale étant à 11h30, on va se donner encore quelques minutes, on a 20 petites minutes, pour que les amis qui nous ont visités puissent repartir chez eux. Soyez bénis, merci pour votre présence, votre participation avec nous. S'il y a des frères et sœurs qui n'ont pas encore émargé ou s'ils n'ont pas signé, ou vous n'avez pas pris le bulletin de vote, vous n'avez pas... Vous allez voir notre frère Pierre Berchel à l'accueil, où notre sœur Christiane aussi avait deux tables. Et si jamais ce n'était pas fait, faites-le. Voilà, on se donne 20 minutes de battement, s'il vous plaît, maximum. Mais on commence vraiment à 11h30 l'Assemblée Générale. Et s'il y a quand même des annonces, oui, si. Allez, encore 3 minutes. Tu me mets les annonces, Mathis, s'il te plaît. Merci. Les parents, vous allez, dans 5 minutes, vous allez pouvoir aller chercher les enfants en bas, allez, avec les moniteurs. Il faut que les moniteurs puissent remonter, s'il vous plaît. Les parents, merci de ne pas traîner pour aller chercher vos enfants. Oui, quelques annonces, même si vous les connaissiez, mais pas toutes. Dans 20 minutes, on a notre assemblée générale. Vous pensez à signer, s'il vous plaît, la feuille d'émargement, si jamais ce n'était pas encore fait. Après l'assemblée générale, j'espère, sur le coup des midi et demi, maximum 13 heures, on a tout chronométré avec les intervenants pour que ce soit le plus digeste possible. On aura notre agape, bien sûr, après, puisqu'on est le premier dimanche du mois, on restera ensemble. Je vous informe que je vais devoir m'absenter. La dernière fois que je suis monté à Strasbourg voir ma maman, c'était en janvier. Et là, malheureusement, sa situation commence sérieusement à se compliquer en termes d'autonomie. Donc, il faut qu'avec Anne, on puisse monter. Merci de votre compréhension. On va monter du 11 au 18 à peu près. Et c'est Marcel Fontana qui assurera le culte et la réunion de prière du mardi 16. Les jeunes, vous savez qu'on se retrouve samedi 20 à 18h30. La chorale vous fait savoir qu'elle attend votre soutien, votre présence, votre intercession. Faites de la musique avec la chorale. Dimanche 21 juin, ce sera comme l'année dernière à la chapelle de l'Observance, mais ce sera un peu plus tard. Ils ont un créneau entre 21h et 22h. Merci de penser à eux dans la prière. Bien sûr, on les soutiendra le mardi. Chapelle de l'Observance de 21h à 22h. Bientôt également, je sais que Romain et Annabelle se chargent de concocter aussi des invitations numériques et papier. On vous communiquera ça très rapidement. On vient seulement de savoir cette semaine qu'on avait ce lieu et ce créneau horaire. Et puis, ah oui, une bonne nouvelle. Tiffaine, où es-tu? Elle est en bas avec les enfants. Donc, dimanche 5 juillet à 15h, on gardera la gape. Dimanche 5 juillet, on fera la gape, on gardera la gape le midi. Et ce sera une réunion spécifique, un temps de joie autour de Tiffaine Rombie pour son baptême. Voilà, elle a fait le parcours de préparation. C'est le temps maintenant pour elle d'officialiser, de concrétiser tout ça. Dimanche 5 juillet, avec la chorale, le baptême de Tiffaine. Et puis, merci de jeter un petit coup d'œil au